l'actualité de la culture et des idées aujourd'hui, comment filmer un conflit sans le montrer. On en parle avec notre invité, le cinéaste Elia Souleyman. Le Buster Keaton ou Jacques Tati palestinien qui croit aux vertus de l'absurde, de l'humour, de la poésie et de l'amour. Il prend toute la lumière une première fois à Cannes en 2002 avec un prix du jury pour Intervention divine, suivi de Le temps qu'il reste, c'était en 2009. Il est de retour, ou il était de retour sur le tapis rouge cette année avec une mention spéciale du jury en mai dernier pour son film It Must Be Heaven qui sort en salle mercredi alors que s'ouvre aujourd'hui une rétrospective de ses films à la Cinémathèque de Paris jusqu'au 8 décembre. Bonjour Elia Souleyman.
Bonjour.
Bonjour à votre voix française Xavier Combes.
Bonjour.
10 ans qui vous séparent, entre 10 ans qui séparent ce nouveau film It Must Be Heaven du précédent. Où étiez-vous pendant tout ce temps Elia Souleyman? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez orchestré votre disparition?
Non, but people mistake the dates. I mean, I did.
Non, mais parfois on fait une confusion sur les dates.
A short film in seven days in Havana.
Court métrage. Film,
but nonetheless, it took some time.
Mais il a quand même fallu du temps.
I started to prepare for this film.
J'ai commencé la préparation de ce film parce que ça a été tourné dans 3 pays. C'était pas simple. Donc la préparation a commencé en 2017 et généralement, moi, il me faut pas mal de temps pour préparer un film. Il se passe du temps entre deux films parce que j'écris et avant d'écrire, je réfléchis et puis je prends des notes. C'est assez empirique et puis c'est pas facile.
It Must Be Heaven, un film chorégraphique où l'on suit de Nazareth à Paris, de Paris à New York. Un étrange personnage, toujours élégant, coiffé d'un chapeau, un candide, incarné par le réalisateur lui-même, c'est-à-dire par vous, Elia Souleyman. Aussi loin qu'il voyage, quelque chose lui rappelle sa patrie. Vous l'avez conçu, imaginé comme votre double, ce personnage.
Actually, this personnage is not very hard to imagine because
it's very much. En fait, ce personnage n'est pas difficile à imaginer. C'est pas mal. Elia Souleyman. En fait, je lui ai donné quelques traits de grandeur, de naïveté. Mais sinon, c'est moi. Moi-même, je me sens aussi vulnérable que le personnage du film. Donc, j'ai simplement dû me regarder dans le miroir pour devenir ce personnage. C'est tout.
Vous regardez le monde avec les mêmes yeux que lui, grand ouvert.
Ah ouais, of course.
Bien entendu.
Of course, I spend half my time observing and sponging realities.
Je passe la moitié de ma vie à observer les choses. Je suis une éponge, je suis en alerte, je regarde ce qui se passe autour de moi. Et puis sinon, l'autre moitié de ma vie, je la passe dans une solitude absolue. J'essaye d'imaginer comment transformer cette réalité, comment lui donner une autre dimension. Donc mes films, je les considère comme une espèce de documentation. Je suis présent, je ne suis pas vraiment le protagoniste, je ne suis pas le héros, loin de là. Mais je crois que l'ambiance du film vise à refléter un petit peu l'époque dans laquelle nous vivons.
Vous avez parlé du temps qu'il vous a fallu pour mûrir, pour concevoir ce film-là aussi, Elia Souleyman. On imagine qu'il vous a fallu du temps aussi pour convaincre les producteurs, les distributeurs de vous donner les moyens de faire ce film.
Yeah, let me present you to my very good friend, Elia Souleyman. He's a Palestinian filmmaker.
Nice to meet you.
But he makes funny films. Mm-hmm. He's doing a comedy right now about peace in the Middle East.
That's funny already.
It's called Heaven Can Wait.
Okay. Sweetie, we're sort of late, so do you mind if we go now?
Yes.
Good luck with your film. It was a pleasure to meet you.
Voilà, là vous êtes à New York, cette scène montre comment vous arrivez à vous allez à la rencontre d'un producteur américain et votre ami qui est là pour vous appuyer raconte que vous voulez faire un film comique sur le conflit israélo-palestinien sur ce territoire du monde. Et la réponse est très courte et rapide de la dame qui propose à votre ami d'aller déjeuner. On pourrait parler d'un autre producteur français cette fois, qui est peut-être le personnage le plus bavard de ce film, Elia Souleyman. C'est un producteur qui parle un peu pour ne rien dire et qui réagit au scénario que vous lui apportez et qui ressemble à s'y méprendre à celui de ce film-là qui sort en salle mercredi. Et il dit, ce producteur, ça se passe en Palestine comme si ça se passait ailleurs. On a même l'impression que ça pourrait se passer ici. Vous les avez tous beaucoup déroutés avec votre projet de film, les producteurs, les distributeurs, ils ont perdu le nord, ils savaient plus où ils étaient quand vous leur avez apporté ce scénario.
I mean, there's a background to all of this. I think that
remettre les choses en contexte.
What you saw in the film is a bit anecdotal in a sense because I needed a pretext
for the narrative. La scène du film est un petit peu anecdotique, c'est un procédé narratif aussi. Donc il y a moi, il y a le personnage que j'incarne, donc le personnage devient réalisateur, quoi qu'il en soit. La première partie de cet épisode qui se passe à New York, donc on est à la fin du film là en fait, mais cela a eu lieu avec Clint Eastwood. On m'a présenté à Clint Eastwood, c'est John Warner Brothers. M'ont présenté à Clint Eastwood, le président de Warner Brothers, voulait produire un demi-film. Il m'a présenté à Clint Eastwood pendant un dîner et il m'a dit un peu ce que dit le personnage là, c'est palestinien. Oui, mais Clint Eastwood a répondu au bout d'une semaine en me disant shit happens. Donc, je me suis inspiré de tout ça pour créer cette scène à laquelle vous faites allusion. La première scène, qui est en fait mon agent, mais cette scène-là, elle a vraiment eu lieu, mais à Paris, lorsque je voulais produire mon premier film. Personne ne voulait le produire et on m'a accusé d'être un faux Palestinien. Ces producteurs, surtout les gauchistes, pouvaient, à leur avis, embrasser la cause palestinienne mieux qu'un Palestinien. Donc ils ne pensaient pas que la Palestine que je voulais dépeindre pouvait être dépeinte avec humour. Donc on m'a accusé, on m'a dit « Pourquoi est-ce que vous pouvez écrire avec humour sur ces sujets tragiques ?» Et pourquoi n'y a-t-il pas de violence, m'a-t-on dit aussi ? Où sont les soldats ? Et l'occupation, elle n'est pas montrée dans votre film. Enfin bon, tout ça pour dire que ce sont des anecdotes que je voulais vraiment montrer. En réalité, tout cela n'est pas faux. C'est juste un discours peut-être un petit peu plus raffiné, mais qui montre quand même cette situation post-coloniale. C'est une histoire de masque, en réalité, tout ça. Et on a tendance à mettre des étiquettes sur les gens sans parler des questions de race, de genre et tout ça. Et par conséquent, donc moi, je me considère comme palestinien.
Voilà, donc un réalisateur, un cinéaste palestinien doit montrer l'occupation du territoire de la Palestine. Il doit aussi montrer la souffrance, les morts, les victimes aussi de cette occupation. Vous avez du coup pris le parti pris contraire, mais je ne sais pas d'où ça vous est né, Elia Souleymane, cette envie de montrer le conflit, de filmer le conflit sans le montrer, c'est-à-dire de montrer le conflit dans les têtes, dans les corps, mais pas directement dans la caméra.
I never really want to project violence. I might have done here and there when it was absolutely unavoidable, but my films don't, and I don't believe actually in exposing violence.
Je ne crois pas à l'exposition de la violence. Quand on montre la violence, on fait la promotion de la violence, à mon avis. Et lorsque l'on essaye de composer une image, il faut y donner de l'esthétique pour procurer du plaisir. Et les questions intellectuelles, rationnelles, politiques se posent dans le film et sont imbriqués dans sa complexité. Donc on se pose les questions avec l'interprétation qu'on peut faire du film. La violence, elle est hors cadre. Mais je fais des allusions à la violence tout de même dans ce film.
It seems like my real character and the character I tried to project and the way I see things seems to go much more towards the
moi-même, nous cherchons à être un petit peu plus burlesque pour exposer la situation et c'est ce que je fais dans la plupart des situations.
Avec vous, la violence, et on le voit d'ailleurs dans ce film, It Must Be Heaven, la violence ou ses symboles plutôt surgit. Partout à Paris, des chars passent à quelques mètres de la place des Victoires. Les aéroports sont transformés en checkpoint. Les avions volent et on entend le bruit aussi des bombes au loin. Il y a cette obsession sécuritaire dans tous les pays. C'est ce que semble trouver votre personnage à l'écran qui quitte Nazareth pour aller à Paris, puis à New York. Notre monde est obsédé par cela.
I think it's what I tried to actually reveal in the film as we were talking about Palestine
is that la Palestine. J'essaie de révéler le fait qu'il ne faut pas regarder la géopolitique en un seul lieu. Il faut regarder la géopolitique à l'échelle de la planète. Tout est lié. Ce qui se passe en Palestine a lieu en partie à Paris. Donc c'est un effet boomerang en réalité. Moi, je voulais montrer cette réalité et poser la question de la violence à l'échelle mondiale sans simplement regarder un seul lieu du monde. Où que l'on aille, il se passe des choses qui sont liées à l'état d'urgence. Il y a des policiers, des militaires partout. Et la France ne fait pas exception, bien au contraire. La France est devenu un lieu de cette violence. Je crois que ce sujet, on peut l'aborder en se demandant qui nous gouverne. Il faut se poser les bonnes questions. Les bonnes questions, ce sont pourquoi cette violence, d'où vient-elle? Et voilà des questions qu'on ne pose pas ou qu'on pose mal. Et je pense que la relation entre les différentes situations économiques et sociopolitiques sont liées. Et d'ailleurs, il y a des grèves, des manifestations à Paris. Vous avez eu les agriculteurs sur leurs tracteurs qui bloquaient les routes. Et puis évidemment, maintenant, il y a des manifestations contre l'économie néolibérale. Aujourd'hui, je montre les choses avec humour.
And dealing with it in the poetics that the cinema can offer.
Je traite cela justement de manière cinématographique parce que le cinéma le permet, j'en profite.
Et on le voit aussi puisque la sortie du film intervient dans un contexte politique chargé avec en Israël et à l'international la nouvelle politique américaine au Proche-Orient, la reconnaissance d'abord de Jérusalem comme capitale puis celle aujourd'hui des colonies israéliennes jugées légales par Washington, conformes au droit international. On le voit que peuvent se décider aux États-Unis de manière totalement unilatérale des éléments, des faits qui vont ensuite conditionner l'avenir d'une région. C'est aussi ça, le monde d'aujourd'hui. Vous avez commencé, vous, Elia Souleymane, à faire des films il y a plus de 20 ans, 91 avec un documentaire, Introduction à la fin d'un argument, 96 de mémoire avec Chronique d'une disparition, votre premier long métrage. Est-ce que le monde est plus violent pour vous aujourd'hui?
I think yes.
Il me semble que oui.
I think it's much worse than just more violent.
Mais en réalité, les choses sont bien pires. Il ne s'agit pas simplement de plus de violence. Les gouvernements fantoches qui répondent aux besoins et aux désirs des multinationales sont pratiquement pornographiques. Aujourd'hui, nous vivons une anxiété sans précédent. Et les sirènes, on les entend, on les écoute, on essaye de savoir pourquoi elles retentissent. Et il y a une finalité là-dedans, en tout cas. Est-ce que l'on peut avoir espoir? Est-ce que l'on peut demander justice? Est-ce que l'on peut réparer les choses?
L'espoir,
en réalité, est menacé. Peut-être que l'on peut dire que l'on est dans une ambiance post-apocalyptique plus que dans la crainte d'une troisième guerre mondiale.
Au
niveau individuel, on sent qu'il y a de plus en plus de solitude.
I think if you look at the different countries in the world, you'll find quite a few.
Si on regarde les différents pays du monde, on se rend compte qu'il y a des évolutions, pas forcément toutes bonnes, mais la violence revêt différents aspects et d'une très grande intensité parfois.
It must be heaven. Le paradis sur terre, c'est pas pour demain, a priori.
Well, no, I think this is like an ironic title. I think there is no
such thing.
I think somewhere embedded there is a bit of hell in that heaven. But I feel that
le paradis est
the irony is maybe also to maybe bring some questioning and maybe to unite somehow.
Mais il faut poser des questions et j'espère montrer une certaine lueur d'espoir.
Il ressemblerait à quoi votre paradis, à vous, Elia Souleymane?
Personally,
vous y mettriez quoi?
You mean selfishly?
D'un point de vue égoïste, vous voulez dire?
It would be some place where it resembles my landscape that I grew up in.
Un lieu qui ressemble au paysage où j'ai grandi.
It's quite probably a lot of vegetation with olives and
beaucoup de végétation, des oliviers,
and it's probably in nature, and
quite a lot of animals, de la nature, beaucoup d'animaux, voilà. Et c'est là qu'on peut commencer à faire des films.
L'endroit où vous êtes né, c'est-à-dire à Nazareth, ce film, It Must Be Heaven, c'est une succession de scénettes, parfois très drôles, parfois provocantes, parfois mordantes ou juste émouvantes. Est-ce que vous pouvez nous raconter la scène d'ouverture, comme ça on ne mange pas trop sur le film, ce prêtre orthodoxe qui arrive avec son cortège, qui descend vers une église et qui trouve porte close, qui toque, mais les personnes qui sont derrière la porte ne veulent pas lui ouvrir et lui répondent « même si Dieu descend, on n'ouvrira pas ». Donc il va y aller avec la manière forte. Qu'est-ce qu'elle raconte cette scène?
Actually, this is a story that happened in Nazareth.
C'est une histoire vraie, cela s'est passé à Nazareth.
I'm secular, but I'm Greek Orthodox.
Moi, je suis laïque, mais orthodoxe.
That I rarely visit, of course.
Je vais rarement à l'église.
But this story happened like maybe 20 something, maybe
théoriquement, en église. Ça s'est passé il y a une vingtaine d'années.
That are supposed to open the door.
Et les gens de mon quartier qui sont censés ouvrir la porte avait un petit peu trop levé le coude, donc ils ont fait montre d'obstination, ils n'ont pas accepté d'ouvrir la porte.
Et
dans le passé, j'aime bien, et je l'ai fait, j'aime bien être dans les films de série B, vous voyez, j'aime bien les scènes d'ouverture de série B dans mes films. Je l'ai fait plusieurs fois, c'est une espèce de gag. Et en ce faisant, je déclare au spectateur, on va s'amuser, détendez-vous, vous allez rigoler. Voilà, c'est ma façon d'annoncer les choses. Dans un de mes films précédents, il y a le Père Noël qui se fait poignarder, mais bon, tout cela c'est très humoristique, puis il y a une poursuite et ça s'arrête là. Pareil, j'annonce les choses, j'annonce au spectateur que bon, on va rigoler. Il y aura plus de rire plus tard dans le film.
Alors vous posez votre regard d'étranger ou de citoyen du monde sur Paris, sur New York. Qu'est-ce qu'un étranger ou quelqu'un qui ne serait pas né comme vous à Nazareth, qui débarquerait là-bas aujourd'hui, il serait marqué par quoi? Qu'est-ce qu'il verrait? C'est un peu ce regard-là naïf, innocent que vous avez tenté de poser sur cette cité, hein.
Well, probably that my personage is a little more naive than I am in real life.
Le personnage que j'incarne est vraisemblablement un petit peu plus naïf que moi.
But I situate my personage to have this kind of expressionless face and
mon personnage
more awkward and naïf is because
de grands yeux, il est un petit peu gauche, maladroit.
Et
je laisse le soin aux spectateurs de de méditer sur ce qu'est ce personnage. Ce personnage n'impose pas son point de vue. Mais en tout cas, moi, quand je vois le film, je me dis que la relation entre mon expérience, mes espoirs et cette désillusion que je vis de par ma vie de nomade, c'est intéressant et en fait, c'est une espèce de dichotomie. Et aujourd'hui, j'en suis au même stade que quand j'ai fait le film. À chaque fois que je vais dans un pays, on a l'impression de ne pas avoir vraiment voyagé parce que la mondialisation a uniformisé même l'aspect physique de pays censés être différents. On a perdu cette diversité culturelle. On est moins enchanté lorsque l'on voyage, on se sent moins émancipé lorsqu'on est dans un lieu qu'on ne connaît pas aujourd'hui.
There is the trauma that comes in the package of, from the second you enter the airport of being
traumatisme
checked and
de la sécurité aux aéroports, on vous fouille, on vous pose des questions, il faut passer tout un tas d'obstacles liés à la sécurité nécessaire dans les aéroports. Et de ce fait, le monde est moins agréable à vivre. À chaque fois que l'on va quelque part, on passe par des checkpoints, des points de sécurité, et on est considéré comme un numéro, un peu comme un prisonnier ou alors quelqu'un enfermé dans un ghetto.
Vous dites que partout où vous allez, alors que vous plaidez aussi, et on le voit à travers ce film, Elia Souleymane, pour une identité passe-frontière, comme d'autres passent les murailles, on vous renvoie à vos origines. Et c'est vrai qu'en même temps, dans ce film, vous affirmez clairement une présence. Pourquoi ? Est-ce que c'est une manière aussi de lutter contre le déni, contre une forme d'aveuglement ?
I'm sure that there is a bit of that. I'm sure there is a bit of that.
Il y a un peu de cela.
You know, I mean, if I'm sitting with you, I'm probably having to also contemplate the question because when I make a film, I just follow an intuition.
J'essaie de répondre à votre question, mais quand je fais un film, j'essaie de faire les choses de manière un petit peu intuitive. Je ne travaille pas les questions identitaires plus que ça. Je compose des images, c'est ça mon métier. Et en composant ces images, je me dis qu'il faut des moments d'humour à tel ou tel endroit. Je rends les choses cinématographiques. Et ce n'est que lorsque je regarde le film ou lorsque l'on en parle dans le cadre d'un entretien comme celui-ci que je me rends compte des différentes dimensions que revêt le film. Ce film ne porte pas sur des questions d'identité ou le fait d'être palestinien. C'est un film qui porte sur le concept de l'identification. Donc ça, c'est intéressant parce que on m'identifie comme palestinien et puis évidemment, c'est lié à tout un tas de causes, de facteurs, d'injustices et autres. Et ça m'est devenu clair. Et en fait, cette vie d'exil, ce privilège, je le vis depuis de nombreuses années maintenant et puis j'ai la possibilité de regarder avec mes yeux les différentes cultures dans lesquelles je baigne. Et aujourd'hui, je me rends compte que mon sentiment vers la Palestine est très fort. Mais il y a d'autres personnes qui veulent une vie meilleure, pas seulement palestinienne. Et dans ce film, Must Be Heaven, je me rends compte qu'il y a une nouvelle génération qui s'attache au même concept. Intéressant pour moi de rencontrer des jeunes qui aiment la vie et qui résistent de façon naturelle à un changement trop brutal.
Alors, cette relation entre l'identité et l'identification à une cause, à la politique d'un État, c'est aussi ce à quoi ou vers quoi on renvoie aussi beaucoup de réalisateurs israéliens aujourd'hui. C'est ce que nous disait Natav Lapid, le réalisateur de Synonyme, quand il est passé autour de cette grande table.
D'abord, moi je suis entièrement israélien, je suis ultra israélien. Je l'ai compris une fois que je suis arrivé à Paris, je me suis dit, sur les Champs-Élysées, alors que je suis entouré de 10 millions de personnes, tout le monde aurait pu remarquer qui n'est pas français ici. Et je ne sais pas si c'était dans ma tête ou pas, mais c'est ça la sensation que j'avais. Et je suis israélien, mais j'aurais espéré que être israélien voudrait dire aussi être en conflit avec votre identité. Que je me souviens que j'ai lu une fois une très belle phrase d'un intellectuel italien qui a dit que ma patrie, c'est pour lui la définition d'une patrie, c'est que votre patrie, c'est la chose auquel vous avez honte. Et je trouve que pour moi, c'est une sorte de clé, peut-être, de déchiffrer ces questions d'identité, d'appartenance.
Voilà, quand il part, le personnage du film de Nadav Lapid, synonyme en France, il se cherche une autre patrie, une patrie littéraire, et c'est à travers la langue, le français, qu'il se cherche une identité et qu'il parvient à se trouver, être capable de critiquer sa patrie. C'est le début d'une prise de distance, vous trouvez aussi, Ilya Suleiman.
J'ai
un petit peu plus de chance que Nadav, parce que moi je n'ai pas de pays. Donc j'ai le privilège de ne pas être associé à une occupation ou à un régime autoritaire. Donc je suis plus libre de ce point de vue-là. Le fait de ne pas avoir de pays, ça m'offre la possibilité de considérer tous les autres pays comme le mien. Donc nous ne sommes pas tout à fait dans la même position, lui et moi. Néanmoins, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui mettent des distances avec leur pays lorsque leur pays font le mal.
And I think that maybe it opens the possibility for Israelis to
les Israéliens
basically start to have this kind of identification.
La possibilité.
Of course, Natav is a margin in Israeli society. There are a few
identification
who reject their system and what it's doing.
Les gens qui rejettent les agissements de leur gouvernement.
Send out an ecstatic message, let's say, of trying to change the situation of their native
essayer
country.
De changer les choses, du moins un message qu'ils peuvent tenter d'envoyer.
Voilà, et c'est ce que vous racontez, vous montrez aussi dans ce film, où se sentir chez soi, et peut-être de savoir que si vous vous sentez chez vous partout ou nulle part à la fois, les deux peuvent se retrouver ou se rencontrer. It must be heaven. On ne sait pas où est ce paradis, mais on continue à le chercher ensemble, entre les lignes, avec vous, Ilya Suleiman, jusqu'à 13h30, France Culture, 13h22.
France Culture, la grande table, Olivia Jesbert.
Un long extrait de la bande annonce, bande originale aussi du film, du nouveau film d'Ilya Suleiman, avec nous jusqu'à 13h30, It Must Be Heaven, qui sort en salle mercredi. Et vous n'avez pas entendu beaucoup de dialogue, et c'est normal, puisque votre personnage, celui que vous incarnez à l'écran, Ilya Suleiman, est muet, mais pas le film qui est très sonore, et on l'entend musical et sonore. Pourquoi ce cinéma sans parole? Vous ne croyez plus au langage?
Je
ne sais pas parce que je n'ai pas de stratégie quant à la façon dont je fais des films. C'était ainsi dès mon premier court-métrage et ça s'est poursuivi tout au long de ma filmographie. Si je regarde pourquoi je fais ça, je me dis qu'il y a peut-être plusieurs raisons. Le cinéma, ce n'est pas forcément un langage verbal, c'est un langage pluriel. Et c'est surtout un langage visuel, avant tout. C'est ça, le cinéma. Par ailleurs, il y a le langage du son, celui de la musique, et le langage du silence. Le langage verbal, c'est un langage parmi les autres. J'ai vraisemblablement choisi d'utiliser les autres langages que le langage verbal parce que ça donne plus de puissance à l'image, ça donne moins de linéarité que le langage verbal. Le langage verbal, je l'utilise lorsqu'il s'avère poétique, lorsqu'il est nécessaire pour des raisons de rythme. Sinon, je l'utilise non pas comme dialogue, mais comme monologue. Je donne de la percussion ou alors, évidemment, à titre humoristique. Il y a des films où il y a beaucoup de blabla et ce verbiage en fait nous empêche de bien méditer sur les images que l'on voit et je crois que lorsque l'on donne trop d'informations par le verbe au cinéma c'est assez délétère de même qu'on fait des excès de langage on utilise parfois beaucoup trop le langage verbal dans la vie de tous les jours alors évidemment, le langage verbal, les mots servent à tout, notamment au consumérisme.
C'est le cinéaste Jean-Luc Godard qui nous disait réfléchir à cette différence entre la langue et le langage et qui la travaille, cette différence dans ses films, et notamment le dernier, le livre d'images, et qui réfléchit aujourd'hui à faire un film sans images. C'est possible, ça, un film sans images?
The first time I would imagine I started to think of such a thing was when I came to the radio a week ago.
À vrai dire, cette notion m'est venue la première fois que je suis venu à la radio, notamment ici à Radio France. Et j'écoute la BO des films dans les enceintes. Et là, j'ai senti un plaisir différent. Et je me suis dit, c'est formidable ce que la radio peut faire pour ce qui est de pouvoir imaginer les images. Parce que alors là, le champ est encore plus large. Depuis la semaine dernière, pour ne rien vous cacher, j'ai une espèce de fascination pour la radio, le film sans images, mais bon, Godard a eu l'idée avant moi.
Non, mais il ne l'a pas réalisé encore. Venez le tourner à Radio France, alors, ce film sans images. Mais il faudra peut-être réhabiliter la parole, alors.
I think that he will probably not at all avoid the parole because
Godard,
if he's going to do without images, you know,
n'évitera pas la parole. S'il n'y a pas d'image, ce sera soit des petits extraits sonores, soit
of the poetics of verbal language. Now, this is a director
autre
that does
chose.
Not abuse language.
Mais Godard, on le sait, n'abuse pas du langage. Au contraire, il amène le langage dans une dimension poétique. Donc c'est complètement différent du blabla, c'est même le contraire.
Ilia Souleymane, on vous compare souvent à un clown triste. Je ne vais pas vous demander où l'espoir peut renaître aujourd'hui et si c'est votre film le plus pessimiste. En revanche, l'humaine comédie, ce sont des mots qu'on voit apparaître dans le film quand vous vous baladez à Paris. Qu'est-ce que vous mettez derrière cette enseigne d'une librairie parisienne, l'humaine comédie ?
Actually, I just took the title, and this place exists.
En fait,
and I was scouting locations, and
ce lieu existe. Sometimes et lors du repérage, je suis tombé dessus. Location, et lorsque l'on s'approprie ce que l'on trouve dans les repérages, on s'est dit que c'est le destin. Et je suis allé là sans vraiment me rendre compte de la dimension que ça représentait. Je voulais tourner dans cette rue de Paris parce que quelque part, au tréfonds de ma mémoire, cet événement de Brigitte, il est question d'une Brigitte dans le film, et bien ça s'est produit là. Et donc c'était ce quartier-là, je m'en suis souvenu. J'ai fait des recherches pour voir si je pouvais tourner là, et puis évidemment, c'est devenu évident, le destin, comme si quelqu'un m'avait envoyé là-bas.
Voilà, l'humaine comédie, c'est aussi ce que vous racontez dans ce film It Must Be Heaven, qui sort en salle mercredi. Merci beaucoup à vous, Ilia Souleymane, d'avoir été avec nous.
Merci.
Merci à votre voix française, Xavier Combes. Merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Jean-Christophe Brianchon et Oriane Delacroix pour leur programmation, avec Henri Leblanc et Sophie Catherine Galet. Merci à Sophie Marty, à François Bréus pour leur aide précieuse, à Laura Dutèche-Pérez qui a préparé cette émission. À la réalisation aujourd'hui, c'était Gilles Blanchard avec Alice Seyed et à la vidéo, Swad Boukorsa et Jordan Fuentes. Je vous souhaite un très bel après-midi à tous sur France Culture.